Bonsoir à tous. Toujours dans le cadre de l'Université chrétienne d'été de Castanet-Tolosan, nous vous proposons aujourd'hui d'écouter le père Cyprien Comte, prêtre diocésain et enseignant à l'Institut catholique de Toulouse.
La vérité vous rendra libre, c'est un bon sujet pour une université d'été. Et aujourd'hui, je vous propose de parler de cette thématique de la vérité en parcourant quelques lignes du corpus prophétique dans l'Ancien Testament. Le titre que j'ai choisi aujourd'hui, ou peut-être que les organisateurs de cette université d'été ont choisi, enfin on est tombé d'accord en tout cas, c'est « Le prophète seul contre tous ?» Point d'interrogation. Et comme sous-titre, pour préciser un petit peu, parce qu'on pourrait sinon parcourir quasiment la moitié de la Bible sur ce sujet, donc nous allons nous en tenir à Michée, fils de Imla, et Jérémie, qui sont deux prophètes plus ou moins connus de l'Ancien Testament. Donc le prophète seul contre tous. Quelques mots avant de parler de Michée sur la mission des prophètes d'Israël, pour redonner un peu le contexte au cas où vous n'auriez pas, en préparant cet après-midi, relu l'intégralité des prophètes d'Israël, ce qui représente une grosse partie de l'Ancien Testament, donc ça vous fait une excuse suffisante. En fait, les prophètes, on discerne souvent deux grandes périodes dans le ministère et la vie des prophètes en Israël. Bon, la source principale, sinon exclusive, c'est bien sûr l'Ancien Testament des chrétiens et la partie que nous partageons avec les juifs, qui est donc la Bible hébraïque. Les anciens prophètes, et on a même donné ce titre pour mémoire à un certain Abraham, pour vous donner une idée, alors qu'en général, on ne considère pas que c'est un prophète à proprement parler. Les anciens prophètes avaient, entre autres missions, entre autres traits caractéristiques, un service de prière. À vrai dire, dans Genèse chapitre 20, c'est pour cela, semble-t-il, que Abraham est appelé prophète. Mais on pourrait donner d'autres noms, n'est-ce pas ? Samuel, Jérémie, j'en passe. Les anciens prophètes étaient souvent des gens qui menaient une vie proche de Dieu, proche du Seigneur, le Dieu d'Israël. Ils n'avaient pas forcément au début une mission de porte-parole, comme nous allons voir que ça devient le cas assez rapidement. On peut signaler ceux qui sont souvent appelés dans ces lectures du début de la Bible, les frères prophètes, littéralement en hébreu, les Bnei Hanneviim, les fils de prophètes, qui étaient des sortes de confréries qui menaient une vie proche de Dieu, qui parfois étaient saisies d'extase, et on ne sait pas exactement quel type de ministère prophétique ils remplissaient à part cela. On en voit par exemple dans l'entourage du prophète Élie. Bon, mais on pourrait donner un certain nombre d'autres exemples. Et puis, il y a aussi, parmi les actions de ces gens qu'on appelle quelquefois prophètes, ou bien qui portent d'autres titres dans la Bible hébraïque, il y a des actes de puissance, ce qu'on appelle familièrement en français des miracles. Est-ce que vous en connaissez ? Certainement. Quand on pense à Élie, il y a par exemple la résurrection ou la réanimation du fils d'une veuve à Sarepta. Ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas ? Mais avec Élie, Élisée, il y a d'autres types de miracles, entre guillemets, que l'on pourrait citer, et cela pourrait aussi nous tenir ensemble très longtemps. Voilà, je n'y insiste pas beaucoup, je voulais juste signaler cela. Ce sont les anciens prophètes d'Israël, et à vrai dire, cela vaut peut-être la peine de dire que dans le corpus prophétique des Bibles juives, ce qu'on appelle la Bible hébraïque, vous avez en fait deux parties qui sont consacrées aux prophètes. On les appelle d'une manière assez peu originale, il est vrai, les premiers prophètes et les derniers prophètes. Mais les premiers prophètes, en réalité, sont nos livres. Est-ce que vous savez comment ils s'appellent d'habitude dans les Bibles catholiques ? Je suppose qu'il y a ici quelques catholiques, je crois que c'est le cas. Ça s'appelle les livres historiques. Les livres historiques sont dans la Bible juive, dans la Bible hébraïque, sont appelés les premiers prophètes. Hanneviim, Harishonim. Et en fait, vous y trouvez donc Josué, Juge, les deux livres de Samuel, les deux livres des rois. Et donc, nous allons d'ailleurs nous arrêter un petit moment tout à l'heure dans l'un des deux livres des rois. Et puis, il y a une deuxième partie des livres prophétiques dans la Bible hébraïque, que nous appelons les livres prophétiques dans, dans notre Ancien Testament. Vous voyez, donc ça n'est pas très très facile, mais c'est peut-être utile de situer ce contexte pour dire qu'en fait, aujourd'hui, nous allons naviguer entre ces deux parties de la Bible avec des passages choisis. Au bout d'un moment, donc, les anciens prophètes cèdent la place, et ça ne s'est sans doute pas fait en un jour, et puis ils ont sans doute coexisté aussi. Et puis on trouve d'ailleurs chez les derniers prophètes des traits qui rappellent un petit peu certaines choses qui se produisaient déjà au début de l'époque de la monarchie, hein, à partir du 11e, 10e siècle en Israël. En fait, les prophètes deviennent petit à petit des porte-paroles, des gens qui sont des messagers du Dieu d'Israël. Et c'est surtout cela qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors je dis Dieu, Israël, mais quand je dis Israël, c'est aussi Judas. Et je donnerai de brefs repères historiques à ce sujet tout à l'heure. Mais vous êtes familiers avec les deux royaumes qui ont coexisté à partir de la fin du 10e siècle avant Jésus-Christ et jusqu'à la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ. Au nord, Israël. Au sud, Juda. Au nord, Israël qui, au bout d'un moment, a comme capitale la ville de Samarie. Et au sud, Juda, qui a comme capitale la ville de Jérusalem. Donc les porte-paroles du Dieu d'Israël sont ceux qui reçoivent, comme il avait été annoncé à Moïse dans le livre du Deutéronome, chapitre 18, ils reçoivent la mission de porter les paroles de Dieu, avec notamment cette expression que Dieu dit à Jérémie, « Voici que je mets mes paroles dans ta bouche ». Et cela correspond presque exactement à ce que Dieu avait promis à Moïse dans le chapitre 18 du Deutéronome. Dieu disait à Moïse, à la fin de la vie de ce dernier, vous savez, le Deutéronome, ce sont les derniers discours de Moïse, et puis il y a même le récit de sa mort. Entre parenthèses, on a longtemps pensé que Moïse avait écrit l'ensemble du Pentateuch, et puis au bout d'un moment, quelques-uns ont dit « c'est quand même bizarre qu'il raconte sa propre mort ». Bon, mais enfin, oui. Oui, mais c'est la petite pointe des gens qui essayent d'étudier scientifiquement la Bible. Vous savez, on en sait parfois beaucoup moins que ceux qui croyaient que Moïse avait écrit tout le Pentateuch. En tout cas, voilà, ce sont des gens, ces porte-paroles du Dieu d'Israël, qu'on appelle donc les prophètes, on peut dire classiques, hein, à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc, on n'est pas encore dans une époque tardive de l'Ancien Testament. Peut-être même, vous vous dites, et les auditeurs de Radio Présence ou ceux qui nous suivent à distance d'une autre façon se disent peut-être, oui, quand même, il y a 2750 ans, ça commence à faire un petit moment. Mais voilà, ce n'est pas une période si ancienne que cela pour le phénomène prophétique, et ce n'est pas non plus la période la plus récente quand on approche de l'époque de Jésus et du Nouveau Testament. Les porte-paroles du Dieu d'Israël, donc Amos, Isaïe, Michée, est-ce que vous en connaissez un autre du 8e siècle? Oui, Osée, et puis on pourrait multiplier les noms sans doute, et puis tous ceux qui suivent ensuite, ceux dont nous avons les noms dans la Bible notamment, ceux-là vont apporter deux grandes séries d'annonces, et on pourrait même dire trois en fait. Il y a des prophètes qui prêchent le châtiment. Ça nous étonne un petit peu parce que quand nous lisons la Bible et que nous avons l'habitude du Nouveau Testament, souvent nous pensons au message de grâce, à juste titre, au message du Dieu d'amour. Eh bien, dans l'Ancien Testament, ce Dieu d'amour qui ne fait qu'un avec celui du Nouveau, eh bien, il est aussi un Dieu sévère qui punit pour éduquer et aussi parce qu'il est juste. En tout cas, on a beaucoup de messages et de promesses de châtiment dans l'Ancien Testament, et pas seulement, il faut bien le dire. Il y a toutefois une deuxième catégorie d'oracles des prophètes, ce sont des oracles de conversion, des invitations à changer de conduite, à vivre selon le bien, avec quelquefois cette précision, si vous faites cela, ça vous permettra d'échapper au châtiment. Bon. Peut-être avez-vous lu Tintin et l'étoile mystérieuse, où il y a un certain personnage qui s'appelle Philippulus, le prophète, et qui annonce le châtiment, voilà, pardon de citer des classiques un petit peu plus récents que les textes bibliques. Donc des oracles de conversion, quand ce ne sont pas des oracles de châtiment. Et puis on trouve aussi, ici et là, et c'est une partie importante des livres prophétiques, souvent d'ailleurs repris dans la prédication de Jésus et dans le Nouveau Testament, pardon, ce sont des promesses prophétiques. On pourrait citer toutes sortes d'exemples. Un texte que les chrétiens entendent souvent dans leurs réunions liturgiques, c'est l'expression « la nouvelle alliance ». Vous voyez, Jérémie a tout un oracle. Alors les Toulousains, souvent, je sais qu'il y a l'un ou l'autre qui ne vient pas forcément de Haute-Garonne, mais les Toulousains aime bien souvent ce verset de Jérémie 31, où Dieu annonce qu'il va conclure une nouvelle alliance avec Israël et Juda. Voilà, je vous invite à lire la suite si vous le voulez. Mais en tout cas, notez bien que dans deux des récits de la scène de l'institution de l'Eucharistie par Jésus, soit dans Luc chapitre 22, soit dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 11, Jésus dit sur la coupe du vin cette expression « nouvelle alliance » qui fait sans nul doute, référence à cet oracle de Jérémie 31. Nous ne sommes pas ici pour tracer seulement un panorama général des prophètes d'Israël. Je vous propose de découvrir ou de redécouvrir ensemble Michée, fils de Yimla. On trouve l'épisode, je crois que c'est le seul, vous pourrez me corriger si j'en ai oublié, mais je pense que c'est le seul épisode qui parle de ce personnage biblique, Michée, fils de Yimla, en hébreu Micha Yehu, mais il faut bien translittérer et prononcer ce nom d'une façon ou d'une autre en français. Alors, Michée, certains disent Mickey ou Michée, je ne sais pas ce qui convient le mieux, vous voyez. Et puis, il y a une petite histoire qui permet de sourire un petit peu et de se rappeler son nom. On dit qu'au séminaire français à Rome, quelqu'un vient pendant la liturgie faire une lecture et il dit « lecture du livre de Mickey ». Et donc, allez savoir pourquoi, un certain nombre ont trouvé que c'était assez amusant et on a dû arrêter l'office, en fait, parce que tout le monde riait. Et donc, voilà. Alors, vous prononcez comme vous voulez, mais dans l'ensemble, dans les cours d'exégèse et à la faculté, on dit plutôt Michée. Alors, quel est le contexte de l'intervention de Michée ben Yimla, ou Michée, fils de Yimla? Alors, pour si vous n'êtes pas familier de la Bible et si vous l'avez apportée, je vous félicite, hein, sinon vous pourrez regarder soit chez vous, soit maintenant pour ceux qui sont chez eux, soit un petit peu plus tard pour ceux qui sont contraints de me voir en direct. Le premier livre des rois est donc dans les livres historiques après le Pentateuque. Vous voyez, donc, dans ma Bible, on est à peu près à 25% du volume de la Bible et on trouve cet épisode. À vrai dire, le règne d'Akab donc, a duré une vingtaine d'années, entre 874 et 853, et Akab règne sur Israël. Peut-être connaissez-vous le nom de son épouse, Jézabel, tristement célèbre, notamment parce qu'elle a eu maille à partir avec le grand prophète Élie. Donc c'est facile parce qu'on repère que nous sommes au 9e siècle. Vous vous rappelez peut-être que David règne sur Jérusalem. Souvent, la date qu'on garde pour simplifier les choses, c'est l'an 1000. Bon, David a eu un règne assez long, mais il est le deuxième roi d'Israël après Saül. Et en fait, donc, ça vous donne une idée. On est seulement 150 ans après le roi David, mais le schisme entre Israël au nord et Juda au sud a déjà eu lieu. Ce qui fait que Akab est le roi seulement d'Israël. On a une petite notice historique sur le règne d'Akab au premier livre des rois, chapitre 16, versets 29 à 34. Mais que se passe-t-il au chapitre 22 ? Akab, il y a un certain nombre d'éléments qui parlent de ses relations avec le prophète Élie, souvent en termes d'adversité. Et puis, il y a aussi un certain nombre de guerres dont nous avons une trace dans le texte biblique, des guerres dites araméennes. Comprenez que Israël fait la guerre contre la Syrie, la Syrie, en deux mots, avec donc le royaume d'Aram. Il y a un certain nombre d'épisodes donc, où on raconte des conflits. Et ici, justement, l'occasion de cet épisode prophétique, c'est une expédition décidée par le roi Akab, qui reçoit la visite du roi de Juda, Josaphat, et ils se décident à aller faire la guerre ensemble contre Aram. Que se passe-t-il ensuite, une fois que donc ces deux rois ont décidé de partir ensemble à la guerre? Les faux prophètes, nous dit le sous-titre dans la Bible de Jérusalem, dans le texte il y a écrit les prophètes, mais enfin on essaye de simplifier la tâche pour le lecteur, les faux prophètes donc prédisent le succès. C'est-à-dire qu'en fait, Akab va partir au combat, mais comme il est de coutume à l'époque, dans le monde ancien, il consulte la divinité. En l'occurrence, nous sommes en Israël, la divinité c'est le Seigneur, le roi d'Israël. On l'appelait autrefois, mais on évite de prononcer ce nom-là, Yahvé. Vous avez peut-être vu ce nom-là dans la Bible de Jérusalem. D'après le peu que je sais, dans la prochaine édition qui est programmée pour la fin de cette décennie, on remplacera ce nom qui reprend les quatre lettres du nom divin en hébreu par le Seigneur. C'est déjà le cas dans beaucoup des Bibles que nous lisons en français. Donc je dis d'habitude « le Seigneur » quand je dis cela. Et en effet, Josaphat, roi de Juda, dit au roi d'Israël, « Je te prie, consulte d'abord la parole du Seigneur. » Alors, on réunit environ 400 prophètes, excusez du peu, et le roi d'Israël leur pose la question. Dois-je aller attaquer Ramoth de Galaad ou dois-je y renoncer? Et tout le monde répond comme un seul homme, vas-y, le Seigneur te donne la victoire. Enfin, je traduis à ma façon, vous voyez. Josaphat, le roi de Juda, demande s'il n'y a pas un autre prophète du Seigneur. Parce que oui, il faut vous le dire, ce ne sont pas des prophètes du Baal. Il y a beaucoup de querelles entre les prophètes du Seigneur et tous ceux qui veulent vivre dans la foi authentique au Dieu d'Israël et les prophètes païens. Baal, Asherah et j'en passe sont les noms des divinités qui avaient préséance, si l'on peut dire, dans le pays. Et il faut bien dire que, par exemple, au chapitre, au chapitre 18, il y a un épisode terrible où Élie offre un sacrifice sur le mont Carmel et avec lui 450 prophètes du Baal qui offrent un sacrifice, et vous vous rappelez l'issue du sacrifice, hein, puisque un dieu répond par le feu, et que par contre Baal ne fait rien du tout, comme s'il était parti en voyage. D'ailleurs, Élie se moque bien de lui. Je ferme la parenthèse. N'y a-t-il donc ici aucun autre prophète du Seigneur par qui nous puissions le consulter? Et le roi d'Israël répond à Josaphat, en effet, il y a bien Michée, fils de Yimla, mais je n'aime pas lui demander son avis, car il est toujours contre moi. Alors pourquoi c'est important de dire Michée, fils de Yimla? Parce que tout à l'heure, j'ai dit, pour vous faire sourire, que dans la Bible, il y a un livre qui s'appelle le livre de Michée, mais en fait, ça n'est pas le même Michée. Vous voyez, donc, pardon si je vous ai induit en confusion, si je puis dire. En fait, Michée, fils de Yimla, on ne parle de lui, je crois, que dans ce chapitre du premier livre des rois. C'est un long chapitre, mais ça ne fait pas de lui l'égal du prophète, non pas du 9e siècle en Israël, mais du 8e en Juda, qui s'appelle Michée de Moréchette. Alors, pas de chance pour nous, ils ont le même nom, mais enfin, le nom veut dire « qui est comme Dieu ». C'est presque exactement le nom de l'archange Michel. Vous voyez, Michaïehu, ça ressemble beaucoup à Michaël en hébreu. Croyez-moi sur parole, si jamais vous ne connaissez pas parfaitement l'hébreu. Donc, en tout cas, Josaphat entend ce que lui dit le roi d'Israël, et lui dit « non, il ne faut pas que le roi parle ainsi ». Faites venir ce prophète et demandons-lui ce qu'il a à dire. Alors que fait ensuite Michée une fois qu'il arrive? Avant qu'il arrive, à vrai dire, il y a un épisode intéressant. Si vous avez la Bible sous les yeux, je vous invite à regarder cela. 1 Roi 22, les versets 11 et 12. Tous les prophètes, imaginez, hein, avant que Michée arrive, semble-t-il, tous les prophètes sont en train de prophétiser, d'être en transe, peut-être qu'ils ont une conduite un petit peu étrange aussi pour dire « monte, monte, monte au combat, tu réussiras, le Seigneur livrera cette ville entre tes mains ». Et voilà qu'un prophète fait un geste symbolique, tout à fait intéressant, qui vise à encourager les deux rois à partir au combat en les assurant que le Seigneur leur donnera la victoire. Sédécias, donc c'est le verset 11, « Sédécias, fils de Kenaana, se fit des cornes de fer ». Je ne sais pas si ça a été très long comme opération. En tout cas, on comprend qu'il s'est, nous on dirait, il s'est déguisé un petit peu, enfin voilà, mais avec des cornes de fer. Donc on se dit, c'est quand même un drôle de déguisement. Et dit, ainsi parle le Seigneur, donc c'est le langage typique des prophètes hein, en Israël. Avec cela, tu encorneras les Araméens jusqu'au dernier. Bon, on comprend assez bien de quoi il s'agit, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le geste symbolique, mode sinon habituel, en tout cas relativement fréquent d'expression chez les prophètes, est utilisé ici pour fortifier les dires des 400 prophètes environ. Et tous les prophètes, dit le texte, faisaient la même prédiction, disant, bon, si quelqu'un n'a pas compris, vous voyez, on répète, on fait un geste symbolique et on répète encore, vous voyez. « Monte à Ramoth de Galaad, tu réussiras, le Seigneur la livrera aux mains du roi. » Et là, dit-on selon une expression consacrée, c'est le drame. Parce que, une fois que Michée arrive, il va expliquer que, pas du tout, enfin, ça ne va pas être tout de suite, hein, vous allez voir, ce n'est pas exactement ce que les nombreux prophètes ont dit unanimement et avec quelle expressivité, n'est-ce pas, qui va se produire, mais bien plutôt le contraire. Michée est l'esprit de mensonge. Michée, interrogé, dit qu'il s'engage à dire uniquement la vérité, comme au tribunal, n'est-ce pas? Je promets de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Ça peut nous intéresser, vu le sujet, n'est-ce pas, de cette université d'été. Ce que le Seigneur me dira, c'est cela que j'énoncerai. Eh bien, une des caractéristiques des prophètes, dans le thème qui nous intéresse, c'est qu'ils protestent régulièrement de l'authenticité de leurs paroles. Michée, fils de Yimla, ne fait pas exception. Et donc, il commence par dire « comme les autres ». Au verset 15, on lui pose la question « devons-nous aller combattre, etc. ou est-ce que nous devons renoncer ?» Et il répond au messager qu'il interroge « monte, tu réussiras, le Seigneur livrera Ramoth aux mains du roi. » Autant dire qu'il redit la même chose que les autres. Apparemment, il n'a pas assisté à la scène, et cependant, il est tout à fait capable de comprendre ce qu'il doit répondre dans ce cas. Et le roi lui dit « Combien de fois me faudra-t-il t'adjurer de ne me dire que la vérité au nom du Seigneur ?» Vous voyez, le roi qui sait qu'en fait, il a affaire à quelqu'un qui n'est jamais d'accord avec lui, en fait, lui demande d'être en désaccord. C'est assez surprenant, mais on pourrait dire que peut-être que ce roi a quand même... non seulement bon nombre de défauts, mais quand même une once de sincérité. Alors, que prononce Michée ? C'est au chapitre 22, toujours au verset 17. « J'ai vu tout Israël dispersé sur les montagnes, comme un troupeau sans pasteur. » Alors là, tout le monde comprend de quoi il s'agit, hein. Parce que l'image du pasteur, traditionnellement, dans les peuples antiques, est utilisée pour parler de ceux qui exercent le pouvoir politique. Bon, on trouve bien ici ou là, par exemple, dans Ézéchiel chapitre 34, des passages où Dieu dit « Les pasteurs font n'importe quoi, et donc je vais me charger moi-même de gouverner mon peuple ». Mais, en général, l'image du berger est d'abord utilisée pour parler du pouvoir politique. Donc quand on dit « J'ai vu tout Israël dispersé sur les montagnes comme un troupeau sans pasteur », c'est une manière poétique de dire « Dans quelques heures, il n'y aura plus de roi en Israël. » Et Akab, même s'il n'est pas nommé, sauf erreur de ma part, le roi d'Israël, il est appelé le roi d'Israël tout au long du chapitre. Il doit y avoir des raisons à cela. Je n'ai pas étudié cette question de très près. Je crois qu'au chapitre 21 et à la fin de l'épisode, on reparle d'Akab, mais par contre, son nom n'apparaît pas dans tout l'épisode qui nous intéresse. Bon. En tout cas, Michée continue à la fin du verset, après avoir dit ce qu'il a vu, et nous savons que les prophètes souvent voient des choses mystérieuses, comme dans un état de conscience modifié, par don divin, si du moins c'est une vision divine qu'ils reçoivent et qu'ils transmettent. Et il continue en disant « Et le Seigneur a dit, ils n'ont plus de maître. » Oui, au cas où quelqu'un n'aurait pas compris la vision. « Ils n'ont plus de maître, que chacun retourne en paix chez soi. » Autant dire que le prophète se refuse, même s'il a fallu l'en prier, se refuse à toute complaisance. Il ne dit pas, normalement, ce que le roi attend de lui, et ça sera vrai également pour Élie, qui est très souvent représenté comme un adversaire des rois à qui il s'adresse. Ce sera vrai aussi pour Amos, dans le royaume du Nord, un siècle plus tard, qui aura maille à partir aussi avec l'autorité. Ce n'est pas le cas de tous les prophètes, hein, entendons-nous bien. Il y a des prophètes à la cour qui font leur travail en disant ce que le roi attend, et puis, même à l'époque de... Pardon, je reviens un petit peu en arrière dans la chronologie, mais à l'époque de David, vous vous rappelez qui sont les voyants qui sont à sa cour? Il y a Gad, il y a Nathan, et Nathan, après l'histoire de David, l'histoire terrible de David avec Bethsabée et Uri, vous vous rappelez, n'est-ce pas? Nathan va aller motu proprio à la cour du roi et lui raconter une parabole. Parabole qui va beaucoup mettre le roi en colère. La parabole de la brebis du pauvre qu'il utilise pour faire comprendre au roi qu'il a commis un crime abominable. Et le roi se condamne lui-même en entendant cette histoire. Vous vous rappelez, hein, cet homme mérite la mort, cet homme, c'est toi. Bref, ceci pour vous dire qu'à la cour des rois, il y a souvent des prophètes, parce que le roi a besoin de savoir ce que pense la divinité avant de prendre une décision importante, et souvent il s'agit de savoir s'il doit ou non faire la guerre. Mais les prophètes ont quand même leur liberté de parole. Alors ici, c'est caractéristique, n'est-ce pas? Le roi d'Israël dit à Josaphat, après avoir entendu les paroles de Michée, bah vous imaginez dans quel état il se trouve, hein, « Ne t'avais-je pas dit qu'il prophétisait pour moi non le bien mais le mal ?» Et là, Michée donne une explication, je vais résumer pour ne pas vous lasser, mais en gros, Michée explique qu'il s'est tenu en présence de Dieu et qu'il a eu une vision de la cour, non pas du roi, mais de la cour divine, où le Seigneur lui-même avait décidé de faire dire des mensonges à Achab par les prophètes. Alors c'était un petit peu surprenant hein, comme histoire, mais enfin c'est vraiment dans le thème, n'est-ce pas, de nos travaux. Et donc j'ai pensé qu'il fallait que nous travaillions sur ce texte aujourd'hui. Alors il y a un esprit qui s'avance et qui se tient devant le Seigneur. C'est une vision un petit peu étonnante, on pourrait la qualifier de mythologique. Si nous faisons une théologie chrétienne, on a envie de dire « mais qu'est-ce que c'est que ces histoires ?» À la cour divine, un esprit s'avance devant Dieu, ça nous rappelle un petit peu des choses qu'il y a dans le livre de Job, peut-être vous vous rappelez. Hein. Bien. Ici, l'esprit s'avance et se tient devant le Seigneur et lui dit « c'est moi qui le tromperai ». Il s'agit de tromper le roi Achab. « Comment ? J'irai et je me ferai esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes ». Et le Seigneur lui-même confirme cette parole d'un esprit étonnant en disant « Va et fais ainsi, voici donc » là c'est le commentaire de Michée qui s'adresse aux deux rois qui attendent de lui une explication « Voici donc que le Seigneur a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là » et vous imaginez la scène, n'est-ce pas, avec environ 400 prophètes qui viennent de dire « Oui, oui, vas-y, tu réussiras » mais le Seigneur c'est la conclusion de ce que dit Michée, « Mais le Seigneur a prononcé contre toi le malheur. » C'est pour ça que je vous dis que c'est le drame. Parce que évidemment, Achab se trouve face à son destin. Si vous permettez que je parle ainsi, c'est plutôt un terme qui correspond à l'histoire et à la mythologie latine et grecque, mais bon, peu importe. En tout cas, Achab doit décider. Que va-t-il faire ? Vous connaissez peut-être la suite de l'histoire et je la résume. Achab dit... Allons au combat, mais puisque je suis menacé, toi, Josaphat, roi de Juda, porte tes vêtements habituels, mais moi, je vais m'habiller comme tout le monde, pour qu'au moins, personne ne puisse venir à moi pour m'exécuter. Et puis finalement, vous connaissez l'histoire, un archer tire au hasard, et la flèche pénètre entre les parties de la cuirasse du roi Achab, qui reste dans son char jusqu'au soir, parce que le combat fait rage, et qu'on n'a pas moyen... de l'amener à un endroit où il pourrait être soigné. Finalement, Achab meurt dans une situation, dans des circonstances tragiques, et on ajoute, c'est assez terrible, parce que en fait, le jugement de Dieu dans l'Ancien Testament se dit aussi comme cela, souvent. Le roi mourut, c'est le verset 37 de notre chapitre 22. On alla à Samarie, donc c'est la capitale, vous vous rappelez, et on enterra le roi à Samarie. Jusque-là, c'est à peu près normal, même si on aurait pu écrire « Il fut réuni à ses pères », comme on dit souvent à la fin du règne des rois d'Israël et de Juda. Mais il y a un commentaire ici du narrateur qui est terrible, parce qu'il dit en fait « L'ignominie qui est réservée à Achab, même si, c'est vrai, il a été enterré. On lava à grande eau son char à l'étang de Samarie, les chiens lapèrent le sang et les prostituées s'y baignèrent, selon la parole que le Seigneur avait dite. » Alors, je ne vais pas m'étendre longuement sur ce commentaire, mais il se trouve que c'est vraiment une manière de dire le prophète, et je pense que c'était Élie, avait prédit à Achab qu'effectivement, la fin de sa vie se terminerait dans la honte. Et nous avons effectivement quelque chose de ce goût-là. Si vous en voulez encore, le texte biblique en rajoute, puisque un petit peu plus loin, la terrible Jézabel connaîtra elle aussi un sort affreux. Et j'ai retrouvé ces quelques mots dans ma Bible tout à l'heure. Peut-être que ça vaut la peine de vous donner les références. Donc la famille royale d'Israël va être massacrée au deuxième livre des rois, chapitre 10. Mais en ce qui concerne Jézabel, c'est juste la fin du chapitre 9. Donc nous sommes dans le deuxième livre des rois, où il est question du meurtre de Jézabel, par Jéhu. Bon, Jézabel sait que son heure est arrivée, elle provoque en fait celui qui va la tuer. Elle a une certaine prestance, on peut au moins dire cela. Ça ne veut pas dire qu'on lui donnerait le bon Dieu sans confession, si vous permettez que je m'exprime ainsi. Mais en tout cas, elle est courageuse face à sa propre mort. Elle est jetée en bas, donc, et son sang éclabousse le mur et les chevaux. Bon, je passe sur les détails si vous voulez. Et par contre, ce qui est raconté, c'est qu'une fois que son meurtrier est allé manger et boire, il dit de lui donner une sépulture, mais finalement, c'est produit d'abord ce qui avait été annoncé par le prophète, c'est-à-dire que les chiens ont dévoré son cadavre. Et on ne trouve plus, dit le texte biblique, donc 2 Rois 9, 35, On ne trouva d'elle que le crâne, les pieds et les mains. Alors c'est quand même assez terrible, hein, pardonnez-moi de vous dire cela, j'espère que vous ne sortez pas du déjeuner et que ça ne va pas vous rendre l'après-midi trop difficile. Voilà, donc c'est une manière dont, vous voyez, dont la Bible a conclu en fait l'histoire de Achab et Jézabel, qui nous montre bien que ce n'est pas la seule question, hein, l'authenticité de la parole des prophètes, même si nous voyons bien qu'elle a joué un rôle dans la fin du règne d'Achab. Ça va jusque-là? Alors, si vous voulez bien, nous tournons la page et nous arrivons à Jérémie, le prophète d'Anatote, qui n'a pas toujours la vie facile. J'ai d'ailleurs abrégé un tout petit peu les malheurs du prophète Michée, fils de Yimla. Vous pourrez aller lire le chapitre 22, hein, du premier livre des Rois si vous voulez les détails. En ce qui concerne Jérémie, le prophète d'Anatote, il peut être utile de redonner en quelques instants un aperçu de sa mission. Donc nous ne sommes plus au 9e siècle, nous ne sommes plus en Israël, dans le royaume du Nord, mais nous sommes à cheval sur le 7e et le 6e siècle. Le ministère de Jérémie, quoiqu'il ne s'achève pas par cet événement tragique, touche à sa fin, semble-t-il, au moment de la prise de Jérusalem par les armées babyloniennes, et notamment son empereur, dont vous connaissez le nom, Nabuchodonosor II, dont, petite page de publicité, une collègue qui, je crois, est originaire d'Ariège et qui maintenant est retraitée du CNRS, vient de publier une biographie assez remarquable. Donc en janvier 2025, vous pouvez trouver une biographie de Nabuchodonosor parue chez Perrin, si je ne me trompe pas. Bref, donc en tout cas, nous sommes avec un prophète qui est en mission à cette époque-là, à l'époque où ce ne sont plus des guerres entre les petits royaumes de la région. Ce n'est plus comme au 8e siècle une hégémonie du grand empire du Nord et de celui du Sud, j'ai nommé l'Assyrie, L apostrophe, n'est-ce pas, Assyrie, et puis au Sud l'Égypte. D'ailleurs, l'Assyrie, petit rappel historique, mettra fin au royaume du Nord, le royaume d'Israël, à quelle époque, vous vous rappelez? Fin du 8e siècle, en 722, 720. Les archéologues nous laissent un tout petit peu de latitude, non pas pour décider, mais parce qu'ils ne savent pas forcément tous les détails. Nous sommes maintenant dans le royaume de Juda. Il n'y a plus de royaume d'Israël. Nous sommes dans le sud, à la fin du royaume d'Israël, puisque la prise de Jérusalem, dont je vous ai parlé il y a un instant, coïncide avec la conquête de tout Juda. Et le royaume de Juda sera assujetti ensuite par l'empire qui menace et qui, à l'époque de Jérémie, domine la scène internationale dans cette région du monde, s'entend. C'est Babylone et l'empire babylonien, ou, si vous voulez le dire autrement, chaldéen, puisque Babylone, c'est le nom de la capitale, c'est d'ailleurs le nom grec. En fait, elle s'appelle Babel, d'où la tour de Babel, enfin, etc. Mais bon, nous avons pris l'habitude dans nos traductions françaises et dans beaucoup d'autres langues, je crois, de dire Babylone, même si, en fait, le nom de la ville est différent. Donc, on peut dire que la mission de ce prophète est résumée dans ce qui est, ces deux saisons, n'est-ce pas, ce qui est une sorte de liturgie d'habilitation. On pourrait parler de liturgie d'ordination d'un prophète quasiment. Si vous voulez, vous parcourrez le chapitre 1 du livre de Jérémie, qui résume encore une fois son ministère, et d'ailleurs nous facilite bien la tâche, puisqu'il y a 52 chapitres dans le livre de Jérémie. Ce qui fait, si j'ai bien compris et compté, que c'est le plus long livre de la Bible. Peut-être pas celui qui a le plus de chapitres, mais le plus de mots, je crois bien que oui. On se rappelle que Jérémie est en prise directe avec le Seigneur, hein. Il lui parle comme un ami parle à son ami, et d'ailleurs comme un ami qui parfois fait des reproches à son ami, parce que, en fait, Jérémie a la vie difficile. Nous assistons à ses prières, et notamment entre le chapitre 11 et le chapitre 20. Du livre de Jérémie, donc Jérémie 11 à 20, nous avons ces prières qui nous livrent quelque chose de l'âme du prophète. Et donc on les a appelées de manière un peu anachronique et en référence à saint Augustin, les confessions. Bien, des très belles prières. J'ai la chance ces temps-ci de passer un petit moment dans le monastère de Muret, au Carmel, pour travailler avec les sœurs, hein, sur la prière du livre de Jérémie. Notamment les confessions. En tout cas, se dégage de l'ensemble du ministère de Jérémie une invitation. Si le prophète veut dire la vérité, Et parfois, il se retrouve seul contre tous. Nous aurons le temps d'en dire un mot avec Jérémie, nous l'avons vu presque en détail, avec Miché, fils de Yimla. Eh bien, il doit être non seulement sincère, mais peut-être que les 400 prophètes qui disaient à Josaphat et au roi d'Israël « Montez contre Ramoth de Galaad, vous réussirez », peut-être qu'ils étaient sincères au fond. Mais Jérémie nous apprend aussi qu'il doit être patient, le messager divin, parce que parfois il n'est pas cru et que parfois il est maltraité pour la parole de Dieu. Par exemple, on pourrait dire que Jérémie rencontre souvent l'opposition. Vous avez, si je ne m'abuse, le plus long récit de procès de l'Ancien Testament dans Jérémie chapitre 26. Et Jérémie, semble-t-il, a échappé à la mort de peu. Alors j'ai eu l'occasion de travailler un peu sur ce texte, mais je ne voudrais pas vous fatiguer en restant trop longtemps sur ce chapitre. On va noter juste qu'en Jérémie 26, au dernier verset, verset 24, on constate que Jérémie, en fait, n'est pas seul contre tous. En effet, non seulement il y a des gens qui ont pris sa défense pendant son procès, et cela évite qu'il soit tué, mais d'une manière discrète, peut-être même humoristique, on peut discuter. Le dernier verset qui parle du procès de Jérémie dit « Mais la main d'Ahikam, fils de Shaphan, fut avec Jérémie pour éviter qu'on le mette à mort. » Et là, on se dit « Donc, il avait au moins un ami. » Or, alors je peux dire cela avec beaucoup de joie, c'est qu'il y a quelques jours, j'étais dans une réunion de biblistes dans le nord de l'Europe, et une des collègues, je ne sais pas si c'est une collègue qui enseigne à Cambridge ou celle qui enseigne en Irlande, bref, elle nous a montré un tableau avec la généalogie de Jérémie, d'Ahikam, fils de Shaphan, de Godolias qui deviendra gouverneur de Juda une fois que les Babyloniens auront conquis la région. Et on se rend très bien compte, si l'on feuillette ne serait-ce que le livre de Jérémie, mais aussi quelques autres, qu'en fait la famille de Shaphan, donc Ahikam, son fils, qui a sauvé Jérémie de la mort, semble-t-il, sont des gens extrêmement proches du pouvoir. Voyez, je dis cela non pas pour faire croire que les prophètes sont des gens qui ont toujours des connexions avec des gens importants, mais que, en fait, l'image du prophète seul contre tous est parfois construite de manière un petit peu artificielle quand même. Certes, Jérémie a traversé beaucoup de déboires, il a manqué perdre la vie. En général, les gens ne le croyaient pas. Et d'ailleurs, le roi l'a rarement écouté. Ce n'est pas tout à fait le cas de certains autres prophètes qui, parfois, avaient une voix qui portait, y compris aux oreilles du roi. Mais là, avec Jérémie, voilà, les choses sont compliquées et je ne voudrais pas que vous croyiez que Jérémie n'a que des ennemis dans le royaume de Juda. D'ailleurs, il avait pris, semble-t-il, le parti de Babylone. Imaginez quand même, hein. Les armées babyloniennes sont sous les remparts de Jérusalem et Jérémie dit, c'est la fin de son ministère, soumettez-vous au roi de Babylone. Une espèce de réalpolitik où Jérémie en fait voit même un sens théologique, ça nous amènerait un petit peu loin, hein. J'ai un collègue italien qui a écrit une thèse de 850 pages sur la question, donc si ça vous intéresse, je vous en parlerai une autre fois, hein. Mais en fait, Jérémie dit, maintenant, ce que le Seigneur nous demande n'est plus de résister à cet ennemi, mais de voir que, en fait, Nabucodonosor devient l'outil dans la main du Seigneur pour punir Jérusalem et Juda pour toutes leurs fautes. Et cette punition est éducative, elle va mener à un exil qui permettra, comme un creuset pour une vie nouvelle. Voilà, je ferme la parenthèse sur cet aspect politique, mais je pense que c'est important aussi. Dans Jérémie 28, le prophète se trouve affronté à un autre prophète, et c'est assez incroyable parce que il y a une histoire de gestes symboliques là aussi, et ça n'est pas forcément que Jérémie qui utilise des symboles pour faire comprendre ce qu'il veut, ce dont il veut convaincre son auditoire. Voilà, vous irez voir si vous voulez, je ne m'y attarde pas pour ne pas être trop long parce que le temps court. Nous ouvrons ensemble le livret dit sur les prophètes. Jérémie 23, les versets 9 à 40. Alors, à vrai dire, c'est assez pratique parce que si vous lisez la Bible en hébreu, sais pas si c'est le cas de l'un ou l'autre d'entre vous, mais je ne vous y encouragerai jamais trop. D'ailleurs, j'ai d'excellents collègues qui enseignent l'hébreu si jamais vous ne le connaissez pas encore. Fermez la parenthèse. Le sous-titre de Jérémie 23, 9 sur les prophètes n'est pas seulement dans vos éditions françaises de la Bible. Pour une fois, le sous-titre est dans le texte hébreu. Et d'ailleurs, si vous avez sous les yeux la Bible de Jérusalem, qui est quand même à peu près la plus répandue dans nos paroisses souvent, il y a écrit, verset 9, sur les prophètes, et juste au-dessus, vous avez un sous-titre éditorial, inséré en fait par les gens qui ont fait ce beau livre, et il y a écrit « Livret contre les faux prophètes ». Oui, donc c'est un petit peu redondant, mais il faut bien avouer que souvent, comme la Bible ne nous donne pas les titres, on a trouvé pratique d'en écrire un certain nombre. Voilà, bref. Donc, que dire sur ce livret contre les prophètes? Parce que, en effet, je ne sais pas si les choses ne sont pas trop simples jusque-là, donc je voudrais compliquer un petit peu la donne, en disant que, d'après les travaux d'un de mes collègues, un dominicain portugais qui enseignait à Jérusalem, j'ai eu la chance de le rencontrer en 2009 alors que je me préparais à venir enseigner les prophètes bibliques à Toulouse, et ce père Gonçalves, hein, que Dieu ait son âme, a publié une ou deux études où il dit, en fait, Jérémie, bon, si c'est déjà trop compliqué, n'écoutez pas pendant la minute qui suit. Hein, voilà. Jérémie, dit-il, n'était pas un prophète. Ou plutôt, Jérémie ne portait pas le titre de prophète, Navi, de son vivant. Mais c'est la tradition postérieure, et notamment les gens qui ont mis en forme le livre de Jérémie, qui ont constaté qu'en fait, il était bien plus un prophète que tous les gens qui portaient le titre de prophète. Voilà, j'espère que c'est assez compliqué. Bien, donc je m'arrête un peu. Si vous avez trouvé que c'était trop, vous pouvez recommencer à écouter. Et donc, Jérémie écrit un livre contre les prophètes. En fait, c'est la fin de son chapitre 23, où il y a une charge contre ces gens qui prétendent dire la parole de Dieu et que le Seigneur n'a pas envoyé. Et les choses sont dites de manière extrêmement explicite et aussi de manière poétique, ce qui nous permet de nous réjouir en lisant un beau texte, pas si facile à comprendre si on ne l'écoute pas. Vous voyez, c'est un petit peu comme dans le livre des Actes au chapitre 8, où quelqu'un est en train de lire un prophète biblique sur son char, et il prend le diacre Philippe en blabla char, ou en char stop, je ne sais pas comment il faut dire les choses, et il est en train de lire, et Philippe, donc on est dans le Nouveau Testament, hein, pardon pour les sauts dans l'histoire, aller-retour, mais bon, quelquefois ça nous réveille aussi, c'est bien. Et Philippe lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il est en train de lire, vous savez quel texte? Il est en train de lire, c'est l'eunuque de la reine Candace d'Éthiopie, il est en train de lire le cantique du serviteur souffrant et glorifié dans Isaïe 52-53. Il dit, en gros, je ne comprends rien. Comment comprendrais-je si personne ne me guide? Et donc Philippe lui explique et lui fait un catéchuménat express. Ça se passe quelquefois, ça, dans les transports en commun. Je peux vous assurer que j'ai eu quelques voyages en rentrant de ce congrès la semaine dernière, où on ne perd pas tout à fait son temps, quand même. Parfois, c'est long, mais en général, ce n'est pas inutile. Et donc, ça aboutira par un baptême. Voilà, je ferme la parenthèse. Ce que je veux dire, c'est que parfois, ça vaut la peine d'expliquer un petit peu les oracles prophétiques, qui, c'est vrai, ne sont pas toujours les plus faciles à comprendre. Que dit le livret sur les prophètes? En substance, 1. Les prêtres et les prophètes de Jérusalem sont vraiment des impies. Comprenez hein, que Jérémie veut leur faire des reproches terribles de la part du Seigneur, parce que non seulement ils disent n'importe quoi, pardonnez la traduction un peu familière, mais qu'en plus ils se conduisent mal. Je vous laisse aller lire les détails si vous voulez. Concrètement, au verset 16 de ce chapitre 23, Jérémie dit que ces gens, les prophètes, hein, et il n'y a pas écrit dans ce texte les faux prophètes, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué hein, quand même. Bon, on nous aide en disant, là aussi, la Bible de Jérusalem, livrée contre les faux prophètes. Bon, ben, tant mieux, ça nous aide bien, mais ça n'est pas écrit en tant que tel dans le texte. Par contre, il est écrit que ces gens prophétisent le mensonge. Et au verset 16, vous avez cette expression, qui nous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Ils débitent les visions de leur cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, les visions de leur cœur? J'ai un collègue, un jeune anglais qui a écrit sa thèse sur les théophanies dans les histoires prophétiques. Théophanie, qu'est-ce que c'est? C'est une apparition divine. Donc c'est un spécialiste des visions divines dans le corpus prophétique de la Bible. Donc il nous a donné une conférence, je pense, c'est il y a un an ou deux, et l'article va bientôt sortir en anglais, sur les visions de leur cœur, sur cette expression et le sous-entendu qu'il y a derrière. que Jérémie va d'ailleurs expliquer, en fait. Ces gens qui se disent prophètes n'ont pas assisté au conseil du Seigneur. Alors vous voyez, on trouve la même image qui est celle de la cour d'un roi. Image bien connue dans le Proche-Orient ancien, sans doute dans les textes babyloniens et j'en passe, mais qu'on retrouve dans la Bible. Vous l'avez vu dans 1 Roi chapitre 22 avec l'histoire de Miché ben Imla. Vous la retrouvez ici, et donc, en fait, cette image est intimement liée à la question de la vérité de ce que dit un prophète, au moins un soi-disant prophète, si nous, nous disons que ce sont des faux prophètes. Vous voyez bien, une de nos difficultés, c'est que nous attribuons le titre de prophète à des gens qui disent la vérité, et quand il y a des gens qui sont prophètes et qui disent des mensonges, ça nous pose un problème, évidemment. Sauf que c'est un petit peu une vision que nous appliquons au texte biblique après coup. Alors malheureusement, les choses ne sont pas tout à fait aussi simples dans le texte biblique. Ces gens n'ont pas assisté au conseil du Seigneur. Alors j'aime bien ce passage au verset 21, c'est Dieu qui parle. Hein. « Je n'ai pas envoyé ces prophètes, et ils courent !» Ça veut dire qu'en fait, il ne leur a pas dit de bouger, et non seulement ils bougent, non seulement ils marchent, mais en plus ils courent. Ça veut dire qu'ils mettent du zèle à faire le contraire de ce que Dieu... à faire quelque chose que Dieu ne leur a pas demandé. Et là, je me réfère à un travail d'un prêtre camerounais. J'ai eu la chance d'être à sa soutenance de thèse. Et lui a fait sa thèse sur, devinez quel chapitre de Jérémie, le chapitre 23. Donc, c'est intéressant de parler ici du père Amos Toumé. J'espère que bientôt, le livre sera dans les bibliothèques scientifiques. Même si, pour l'instant, il est en paroisse en banlieue parisienne. Je pense qu'il a un peu autre chose à faire. Bon. « Je n'ai pas envoyé ces prophètes et ils courent. Je ne leur ai rien dit. » Et ils prophétisent. Et Dieu continue en disant « S'ils avaient assisté à mon conseil ». Bon, je crois que vous avez compris hein, un petit peu. Alors je voudrais vous dire quand même, avant que nous terminions ces propos sur le prophète Jérémie, qu'il y a dans ce beau chapitre 23 deux séries de questions divines. Et j'ai eu la chance de travailler un tout petit peu sur ces textes. Alors je vais vous lire les questions. Il faut se figurer, peut-être nous ne sommes pas complètement familiers de ce genre littéraire, mais il y a ici des éducateurs et peut-être que vous pratiquez vous-même la question rhétorique. C'est-à-dire en fait une question que l'on pose, mais pas pour avoir une réponse. Une question qu'on pose parce que la réponse est évidente et qu'on veut faire comprendre quelque chose à la personne à qui on s'adresse. Peut-être ici, aux gens qui liront le livre longtemps après. Je ne sais pas trop à qui Jérémie a dit cela. En fait, c'est Dieu qui parle. Un long discours divin rapporté par Jérémie. « Ne serais-je, donc c'est Jérémie 23, le verset suivant, « Ne serais-je un Dieu que de près, oracle du Seigneur ? De loin, ne serais-je plus un Dieu ?» Alors on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, je continue. L'explication arrive. Un homme peut-il se terrer dans des lieux cachés sans que je le voie, oracle du Seigneur ? Est-ce que le ciel et la terre, je ne les remplis pas, oracle du Seigneur ? En fait, cette affirmation est limpide. Dieu dit, est-ce que je serai un Dieu seulement de près et pas de loin ? C'est pour qu'on réponde non. Dieu est en train de dire, je suis présent partout et je vois ce qui se passe sur la surface de la terre. Alors, ça paraît parfois un petit peu drôle à mes collègues spécialistes du livre de Jérémie de trouver cette question au milieu de cette diatribe contre les prophètes de Samarie d'abord et maintenant de Jérusalem. Sauf qu'en fait, il y a une logique. Si vous voulez bien, regardons ce qu'il y a juste quelques versets plus loin. Encore une série de questions que pose Dieu. Et ça va nous permettre de comprendre pourquoi on a eu ces trois questions rhétoriques qui... on dirait aujourd'hui qu'ils sont une affirmation de l'omniprésence ou l'omniscience de Dieu, même si le texte ne dit pas exactement ça, voyez. Un tout petit peu plus loin, on a « Qu'ont de commun la paille et le froment ?» Alors là aussi, question un petit peu énigmatique, n'est-ce pas ? Qu'y a-t-il de commun entre la paille et le froment ? Oracle du Seigneur. « Ma parole n'est-elle pas comme un feu ? Oracle du Seigneur. N'est-elle pas comme un marteau qui fracasse le roc ?» Alors j'ai l'impression que Jérémie procède par série de trois questions rhétoriques, dont la première est à peu près incompréhensible, mais s'explique par les deux qui suivent, et qui sont beaucoup plus faciles à comprendre. En fait, la première série de questions, donc Jérémie 23, versets 23 et 24, dit que Dieu n'est jamais trop loin pour voir ce qui se passe. Et la deuxième série de questions, versets 28 et 29, dit qu'en fait, un, la paille et le froment n'ont pas grand-chose de commun. Enfin, la paille porte le froment, mais la paille ne sert à rien ou quasiment à rien. Je pense que c'est ça que ça veut dire ici. Il est en train de dire, qu'est-ce qu'il y a de commun entre la parole de ces gens et la parole que je donne vraiment à mes prophètes ? Et il continue en disant, ma parole est puissante comme le feu et comme un marteau qui fracasse le roc. Nous comprenons donc que ces deux séries de questions servent au Seigneur pour affirmer par la bouche de Jérémie que non seulement il voit ce que font les prophètes, et on a dit en long, en large et en travers avant combien c'est mal et punissable, mais qu'en plus sa parole est puissante. Et donc, que va-t-il se passer ensuite ? Eh bien, puisque Dieu connaît ce que font les mauvais prophètes, qu'on appelle nous faux prophètes, puisque sa parole est puissante, et puisque tout le monde sait que Dieu est juste, eh bien, il va punir ces faux prophètes. Pardonnez-moi de résumer les choses comme ça, mais en fait, c'est peut-être la meilleure manière de dire les choses en peu de mots. On peut parler donc de science, de puissance et de justice divine, des attributs divins qui se révèlent ici dans le cas qui nous occupe. Nous avons donc parcouru rapidement la mission des prophètes, ensuite un épisode, l'épisode dans la Bible, qui parle de Michée, fils de Imla, à ne pas confondre avec son homonyme Michée de Moréchette, qui a laissé un livre prophétique à son nom. Donc nous étions avec Michée, fils de Imla, au 9e siècle, en Israël, à la cour du roi Akab. Nous sommes désormais avec Jérémie, et je viens de finir d'en parler, j'ai résumé, hein, parce que le chapitre 23 de Jérémie, c'est un monde. Au point que vous voyez, hein, le verset 23, « Ne serais-je un dieu que de près et de loin, ne serais-je plus un dieu ?» Beaucoup d'exégètes écrivent dans leurs longs commentaires de centaines ou de milliers de pages, on ne comprend pas pourquoi cette question est là, sous-entendu, on ferait bien de l'enlever, vous voyez. Or, en fait, elle est tout à fait à sa place. En fait, Jérémie, donc, c'est au tournant du 7e et du 6e siècle, en Juda, à l'époque de différents rois, puisque le ministère de Jérémie est long, mais que par contre les rois, notamment à la fin du royaume de Juda, se succèdent assez rapidement, et le dernier sera même exilé à Babylone. Finalement, nous pouvons garder quelques questions qui nous serviront pour ouvrir le débat, si vous avez encore, bien sûr, un peu de force. Voilà. Je félicite ceux qui, dans la salle ou à distance, sont encore avec nous. Il y a beaucoup de questions qui se posent au sujet de la parole des prophètes, et j'en liste seulement quelques-unes en vous donnant quelques critères qui peuvent nous aider à discuter. Est-ce que être sincère suffit ? Parce que beaucoup de prophètes qui disent des mensonges sont sincères, en fait. Finalement, être authentique, on comprend que dans le cas des prophètes bibliques, c'est être envoyé par Dieu et dire vraiment une parole reçue du Seigneur, qui d'ailleurs est une parole pleine de puissance. Avec la question, bien sûr, elle est très contemporaine, la question du relativisme. Est-ce que finalement, on peut dire, comme chacun le pense, que finalement les opinions, étant celles de personnes respectables, peuvent avoir toujours leur part de vérité ? Bon, on espère quand même que quand quelqu'un exprime une opinion, il pense qu'il y a quelque chose de vrai dedans. Mais pourtant, un intellectuel de la fin du XXe siècle, hein, qui est devenu pape sous le nom de Benoît XVI, appelait la dictature du relativisme, en fait, c'est quelque chose qui existe quand même dans notre monde, hein, on voit bien. Et on sait aussi quelle guerre, je crois qu'on Monsieur Thomas en parle, hein, dans cette série de rencontres, n'est-ce pas, quelle guerre se joue sur les terrains de l'information. Bon. Une parole qui semble efficace, notamment avec les gestes symboliques qui montrent ce qu'ils sont censés exprimer. Vous vous rappelez les cornes du prophète Sédécias avec l'histoire de Michée. Vous vous rappelez peut-être avec Hanania dans Jérémie 28, l'histoire du joug que le prophète avait brisé en disant « Voilà, de la part du Seigneur, voilà que je brise le joug de Babylone. » Et Jérémie dit « Mais non, pas du tout. » Ou plutôt, il commence par faire silence. C'est là qu'on voit que le prophète doit aussi faire preuve non seulement de persévérance, de dire encore et toujours, et comme on dit, hein, dans le Nouveau Testament, à temps et à contre-temps, ce qu'il est chargé de dire, parfois même indépendamment des résultats, voire même en étant contre-productif, parce que parfois, en suscitant l'adversité, on ne produit pas du tout les fruits attendus. Et pourtant, le prophète devra faire preuve de patience. On aura vu, si on a lu, tout un roi 22, que Michée se fait frapper à cause de ce qu'il a fait. C'est le cas de Jérémie, qui a été mis en prison aussi, et l'un et l'autre, d'ailleurs, en fait. Hein. Mais Jérémie, par moments, garde simplement le silence. Quand quelqu'un semble avoir raison contre lui, il se retire, et ce n'est que quelques jours plus tard, quand la parole du Seigneur lui est adressée, qu'il peut revenir à la charge. Ça veut dire que le prophète ne semble pas toujours avoir raison non plus, ni tout de suite, ni plus tard. Dieu sait, Dieu agit avec justice. Nous avons vu ça dans Jérémie 23, mais ça nous rappelle aussi l'image de la branche d'amandier que Jérémie avait vue, d'après le récit qui nous est donné de sa vocation. Vous vous rappelez ce que c'est l'amandier en hébreu? Il y a un jeu de mots. Donc dans vos Bibles, s'il y a quelques notes, il y a une note sur « Que vois-tu Jérémie ?» la première vision de Jérémie pendant sa vocation, donc celle de Jérémie 10, 11 ou 12, chapitre 1, verset 10, 11 ou 12. Et Jérémie dit « Je vois une branche d'amandier ». Et le Seigneur lui dit « Bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir ». Une autre manière qu'a le Seigneur de dire que sa parole va s'accomplir, qu'il en a la puissance, parce qu'il y a un jeu de mots en hébreu, je n'y insiste pas, sur le mot « amandier » et sur le mot « veilleur ». C'est pourquoi Dieu dit « Tu as bien vu la branche d'amandier, je veille sur ma parole pour l'accomplir ». Bien. Les faux prophètes dans le Nouveau Testament, Jésus en parle, et dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 7, verset 15, il les appelle des loups déguisés. Vous voyez, les loups qui prennent l'allure d'agneau ou de brebis pour se mêler au troupeau. Et on voit bien que c'est le jugement terrible que Jésus porte sur les prophètes. De la même manière, d'ailleurs, qu'il parlera parfois des prophètes qui sont venus avant les gens à qui il s'adresse. Et peut-être qu'on peut donner encore d'autres critères. Alors, j'ai eu la chance de diriger une session à la fac de théologie il y a quelques années, et les actes ont été édités. Alors, le livre est un petit peu cher, et c'est un peu technique, c'est une session de théologie. Mais en fait, en résumant au début de l'ouvrage les propos de mes collègues, j'avais repéré trois critères, notamment, qui permettent de statuer sur l'authenticité d'une parole qui prétend venir de Dieu. Et on parle souvent pour l'authenticité des prophètes, bien qu'aucun critère ne suffise pour déterminer la véracité des paroles d'un prophète. Et c'est là la difficulté, en fait. Parce que, évidemment, si on doit attendre qu'une prophétie se réalise, souvent c'est après la mort du prophète, donc c'est un peu tard pour dire, en fait, on aurait eu raison de l'écouter. Bon, je ferme la parenthèse. Parmi les autres critères qui sont donnés, donc, notamment par les travaux de mes collègues, mais qu'on trouve aussi dans les livres de la Bible, vous avez la cohérence de vie. Certains prophètes sont un peu plus crédibles, au moins, parce qu'ils essayent de vivre en accord avec la parole qu'ils proclament. Je n'y insiste pas, d'autant qu'en fait, ça n'est pas un critère infaillible dans la Bible. Il y a la communauté qui reçoit les paroles d'un prophète. C'est-à-dire qu'en fait, si aujourd'hui vous pensez aux gens qu'on appelle des prophètes, souvent ils sont prophètes pour quelqu'un. Parfois, ils deviennent même des icônes. Je crois que je parle de ça aussi au début du livre. Donc je peux le prêter si quelqu'un veut juste jeter un œil. Ou bien, si vous me demandez gentiment, je pourrais vous envoyer quelques lignes que j'ai écrites, si ça vous évite d'acheter un livre qui vaut presque 30 euros. Et en fait, là, par exemple, il y a une partie de la communauté écologiste aujourd'hui qui reconnaît dans la jeune Suédoise Greta Thunberg un prophète. Et en fait, on peut discuter, vous voyez. Il n'y a pas si longtemps, y compris dans l'Église, on aurait dit qu'un certain nombre de figures charismatiques étaient prophétiques. Et puis parfois, quand on voit le mal que ces gens ont fait par ailleurs, on dit « Est-ce qu'on peut encore dire ça ?» Et c'est compliqué. Et pourtant, si nous avons dans nos Bibles au moins 15 livres prophétiques, ça veut dire que quelqu'un a reconnu que ces textes étaient prophétiques. Vous voyez, quelquefois, on dit ça, je termine presque en vous disant cela pour vous faire sourire. Qu'est-ce qui est le plus important dans la Bible ? Selon certains, c'est la reliure. Parce qu'en fait, je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi, j'ai reçu cette Bible de l'Église dans laquelle j'ai grandi. Et en fait, on m'a dit, la Bible, c'est ça. Parce que c'est la règle de notre foi. Bien sûr, interprétée dans la tradition de l'Église. Nous sommes catholiques, mais n'empêche que nous avons une reliure et qu'il y a des livres qui sont dans la reliure et d'autres qui sont dehors. Et en fait, ça, c'est aussi une marque de reconnaissance de l'autorité prophétique de certains écrits. Et puis, il y a aussi la question de la synchronie et de la diachronie, j'y ai fait allusion tout à l'heure, c'est de dire, en fait, parfois on reconnaît qu'une parole prophétique est vraie au moment où elle est prononcée, il y a des invariants dans la parole prophétique, mais souvent aussi, c'est seulement a posteriori, et c'est le cas, par exemple, pour le livre de Jérémie, qui concentre un certain nombre de mes efforts en ce moment. Le livre de Jérémie n'est devenu le livre de Jérémie que longtemps après la mort de Jérémie, sans doute. Et il est fort possible que de son vivant, personne n'ait dit que cet homme était un prophète. Voyez combien les questions sont complexes, mais comment elles nous aident aussi à la fois à nourrir notre réflexion, notre vie spirituelle, et puis aussi peut-être à essayer de nous aider à être attentifs à la parole de Dieu, la parole authentique, et pas uniquement aux visions de notre cœur. Merci beaucoup.